des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, vous qui aimez tant la lecture, vous savez que nous avons ceci en commun. Alors je suis très heureuse une fois de plus de venir vous présenter des titres, mais aussi des auteurs et des gens qui vont collaborer à cette émission. Alors autour de la table aujourd'hui, ou plutôt au téléphone, on va commencer l'émission avec Jean-Daniel Aubin. Et puis en seconde partie, nous allons retrouver Marie-Josée Longchamp qui va nous parler de ce spectacle qu'elle donne autour de l'œuvre de Raymond Lévesque. Raymond Lévesque dont je vous présenterai d'ailleurs le livre « L'Amérique est un mensonge » qui a été enregistré il y a peu de temps et qui est maintenant disponible via le SQLA. Également à l'émission, d'ici quoi une dizaine, une douzaine de minutes, Frédéric Garicomo, poète, musicien, chanteur, auteur de deux romans qui sont tous les deux enregistrés. Ça faisait très très longtemps aussi qu'il était sur ma guest list, comme on dit en bon français. Et puis à l'émission, eh bien des rubriques que vous connaissez bien. Il y aura une chronique des nouvelles et des livres qui sera consacrée à San Antonio. Je vous présenterai également une série de livres à lire en rafale à la toute fin de l'émission. Et puis je vous annonce que la semaine prochaine, nous allons recevoir les nouveaux propriétaires de la librairie du Square. Ça fait maintenant quelques mois, voire un peu plus d'un an, qu'ils ont pris le relais. Et on est très, très contents de les recevoir la semaine prochaine. En attendant, on retrouve avec plaisir Jean-Daniel Aubin, le fidèle parmi les fidèles. Bonjour Jean-Daniel.
Et bonjour Clotilde.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous?
Très très bien aussi.
Oui.
Jean-Daniel, par le plus grand des hasards, vous avez choisi un livre. Il s'avère que c'est un livre qui est sorti chez Urtubiz, et il s'avère que Urtubiz, XYZ, tout ça, c'est à peu près la même boîte.
Oui.
Ça veut dire la même boîte que Frédéric Garicomo que nous avons ici.
Oui.
Et nous avons une représentante de la maison. Alors, quand elle a entendu de quel livre vous alliez nous parler, elle a dit « Oh, mais c'est chez nous !» Il n'y a jamais de hasard à cette émission-là.
Avec moi, il n'y a jamais de hasard.
Et surtout avec vous. C'est vrai ce que vous dites. Alors, « Dépourvu » de Victoria Grondin,
oui.
Que je n'ai pas lu, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la trame, le fil conducteur de ce livre-là, et j'ai très hâte que vous nous en parliez.
Mais écoutez, premièrement, c'est un roman audacieux.
Oui.
Vraiment, j'ai trouvé que l'auteur, Victoria, avait énormément d'audace de prendre un sujet aussi fragile que le spectre de l'autisme et de faire un roman en inversant vraiment l'univers. Donc, c'est comme si on se retrouvait dans un univers complètement à l'envers. Donc, une société où tout le monde est autiste.
C'est ça.
Sauf la seule personne handicapée dans ce roman-là, c'est Guillaume. Il est handicapé parce qu'il est dépourvu de l'autisme.
C'est ça, parce qu'il n'est pas autiste.
Non, pas du tout. Et même si toute sa famille, même son jumeau est autiste, sa psychologue, sa psychothérapeute, tout le monde autour de lui est autiste. Et ça nous fait voir, ça nous fait comprendre aussi la pression que la société met sur les gens qui sont différents. Tous les traitements, tous les médicaments et même les régimes alimentaires qu'il va essayer durant le roman, la période du roman, pour essayer d'être comme les autres, essayer de ressembler aux autres pour atteindre le bonheur.
Par la nourriture.
Ah, il va suivre un régime alimentaire avec des calories, il va grossir, il va devenir énorme, et finalement, ça donnera absolument rien. Et éventuellement, il va en avoir marre de tout ça, et il va faire la connaissance de Grâce, qui soupçonne d'être comme lui, dépourvu. Et naturellement, ça va devenir une amitié, et par la suite, l'amour, jusqu'au moment où il va vivre la trahison, où il va se rendre compte que Grâce, elle est pourvue. Elle faisait ça pour sa psychothérapeute qui l'avait comme formée pour enquêter finalement sur la vie de Guillaume, tu sais, des comptes sur la façon dont il vivait, son handicap, finalement.
Est-ce qu'on comprend pourquoi, je veux dire, quelle est la raison génétique ou je ne sais quoi, pourquoi lui, il est ce que vous appelez, donc ce qu'on appelle dans le livre dépourvu, alors que les autres sont pourvus du spectre de l'autisme.
Il n'y a pas vraiment d'explication comme telle pour lui, pourquoi lui spécialement. C'est que dans...
Comme dans la vie...
C'est comme dans notre vie à nous.
Donc, pourquoi ça tombe sur certains, quoi.
Oui, ouais, sauf que c'est l'univers à l'envers. Donc, c'est comme l'envers de la médaille. Et les gens qui sont différents, qui sont handicapés dans cet univers-là, c'est les gens qui sont dépourvus de l'autisme.
Alors, allez-y.
Et ça prouve vraiment que l'auteur connaît vraiment le domaine, parce que je pense qu'elle étudie beaucoup dans ce domaine-là. Et elle nous fait vivre ça d'une autre façon. Même que je me suis sentie interpellée, parce que je me disais, oui, c'est vrai, avec ma perte de vision, tout ce que j'ai pu faire pour essayer de redevenir comme avant et d'être accepté par les autres. Donc, c'est un peu ça, Guillaume. Guillaume, il veut être accepté par les autres, il veut être aimé.
Oui.
Et finalement, il va... être trahi par grâce, abandonner tout ça. Il va arrêter les traitements, arrêter les médicaments, il va se réfugier dans la petite boutique de vinyle, de disque vinyle qu'un des amis lui avait laissé, il avait donné. Il va se réfugier là-dedans, écouter de la vieille musique, jusqu'au jour où il va voir une petite fille entrer dans le magasin, qui va pouvoir écouter la musique et avoir cette musique-là. Et lui va soupçonner que cet enfant-là est comme lui, dépourvu.
Oui.
Et jusqu'au moment où la mère va venir récupérer la petite fille et la mère va être grasse.
Ah!
Donc, c'est un choc pour lui en même temps. Et c'est comme la période où il a cru vraiment en grâce à cet amour-là qui va surgir avec la petite fille blonde aux cheveux frisés, aux yeux bleus.
En effet, oui.
Oui. Donc, c'est vraiment captivant parce que c'est très bien écrit. On se perd pas dans...
Non.
On tombe vite.
C'est une littérature jeunesse, hein, mais jeunesse avancée quand même, ado, hein, on s'entend, hein?
Je dirais jeune adulte.
Jeune adulte, hein, c'est
ça. Oui, oui. J'ai hésité longtemps parce que j'avais beaucoup d'autres romans à lire, mais je revenais toujours sur lui parce que je me disais, mon Dieu, c'est comme important de parler de...
Et vous avez raison, surtout avec ce qui s'est passé il y a maintenant 2 semaines. Là, vous savez que notre gouvernement a décidé de frapper un bon coup pour l'autisme et surtout pour les parents, pour les aider, pour leur venir en aide.
Oui, bon. et dans ce roman-là, ben naturellement, c'est lui qui a besoin d'aide parce qu'il est pourvu. Ils ont une façon facile de reconnaître les gens qui sont pourvus et dépourvus.
Ah oui?
Oui, c'est par des bracelets.
Ah.
Donc, ils ont 5 bracelets de couleurs différentes.
Ah, donc il n'est pas tout seul, alors?
Il cherche quelqu'un qui va avoir des bracelets, les 5 bracelets verts. Parce que les 5 bracelets verts, c'est quelqu'un qui est dépourvu.
Qui est dépourvu. Et ça se passe où? On est censé être où?
On est là maintenant. On peut imaginer qu'on est dans notre ville.
Dans une grande ville, genre Montréal ou...
Dans une grande ville.
OK, d'accord, dans une grande ville, mais qui n'est jamais nommée. Je veux dire, on n'est pas sur une planète, on n'est pas sur une planète différente.
Oui, c'est suggéré.
C'est suggéré.
Je veux dire que c'est Montréal, que c'est une grande ville comme Montréal.
D'accord.
Oui, donc on sent un peu l'effervescence de la ville et les gens qui tournent autour, c'est très moderne. C'est une famille qui, le père, la mère travaillent, le frère jumeau étudie. Lui est comme perdu là-dedans.
Oui, parce que ce qui est intéressant, en tout cas, moi, je suis allée lire tout le début du livre, c'est que vraiment, ils pensent, ils vivent comme des autistes. Donc, on sait qu'il y en a qui ont, par exemple, une habitude comme des tocs de compter des choses et tout. Alors, lui, il est complètement perdu là-dedans parce que ça ne lui ressemble pas du tout, quoi.
Oui, parce que leur vie est organisée.
C'est ça, toute leur vie, ils pensent, ils écrivent, ils vivent comme des autistes, et c'est ce qu'il faut que les gens s'imaginent. Alors lui, du coup, il est complètement perdu, le bonhomme.
Tout est identifié pour eux, donc des codes de couleur, des...
Ben oui,
ils sont
c'est
habitués
ça.
De vivre c'est avec ça. Ces codes que lui, je veux dire, il voudrait bien les suivre, il voudrait bien, il s'efforce beaucoup de suivre les codes d'éthique.
Ouais.
La marche à suivre, mais c'est épuisant pour lui.
C'est épuisant pour lui et c'est très enrichissant pour le lecteur. Alors, Jean-Daniel, on va peut-être redire le titre, Dépourvu, de Victoria Grondin comme ça se prononce.
Oui.
Donc, ce livre entre science-fiction et roman psychologique dont vous nous parliez ce matin, j'allais dire, aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Jean-Daniel, d'avoir participé. Puis, oui, je vais mettre ce livre-là parmi la longue pile qui est en train de faire basculer ma table de chevet à la maison.
Ben, en tout cas, ça nous éveille à une réalité que...
Ouais. Moi, je verrais ça en images. Il me semble que ça ferait un beau film, ça.
Ah oui, moi, je trouve que ça ferait un film super. Ouais.
Ça ferait, et puis, comme vous dites, en plus, ça éveillerait encore plus de monde à cette réalité-là, dont nous parlons beaucoup à Canal M, mais qui, malheureusement, est encore une réalité que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quoi.
Ben, si on n'en connaît pas autour de nous, moi,
non,
j'en
ça.
Connais autour de moi.
Voilà,
et c'est
voilà.
Pour ça aussi que j'ai voulu en parler.
Alors, Jean-Daniel, je vous souhaite une très, très belle fin de journée. J'ai bien hâte de vous réentendre sur les ondes. Merci pour ce choix.
Merci, et merci à vous et à vos invités.
Merci. Salut. Bye-bye.
En regardant le fleuve, je ne cherche pas d'épreuve pour appuyer l'air midi. M'annonçant mon déclin qui viendra de ta main ou d'un appendice bien pire. Je ne chasse pas les papillons, plutôt les illusions. Tu sais si bien mentir. Disparaîtrait
quand la lune
sera pleine. J'aurai la marée, plus jamais les sirènes. Je ne serai plus loin. En attendant le train, je ne m'en lave pas les mains. J'assumerai tous mes crimes. Si tu brailles de ta lisse, si tu brouilles toutes les pistes, les pertes seront minimes. Je ne veux plus être celui qui t'aide à tout détruire. Je te reverrai au bord de l'abîme. Je disparaîtrai quand
la lune
sera pleine. La marée, plus jamais les sirènes. Je disparaîtrai, je ne serai. Je disparaîtrai. Je disparaîtrait quand la lune sera pleine.
Et on avait commencé déjà à dialoguer, à discuter avec mon invité aujourd'hui, un homme dont j'aime tellement les prénoms et le nom, mais je n'aime pas que ça de lui, je vais me faire un plaisir de lui dire, c'est Frédéric Garicomo. Frédéric Garicomo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et j'ai bien dit Frédéric, j'ai pas dit Frédéric, c'est vraiment Frédéric.
Ouais, c'est pas de ma faute.
Non, c'est ça, parce que moi je pensais, je me disais, oh, ça c'est encore un coup du curé qui a enlevé le E, mais c'est pas ça du tout.
Ben, ça se peut que ce soit ça, mais, mais c'est l'autre partie de la légende, c'est que ma mère avait des ascendances portugaises, et en portugais, Frédéric devient Frédérico, donc F-R-E-D-R-I-C-O. Okay. Et puis, bon, c'est comme, elle l'a francisé en enlevant le O, mais okay. Voilà, ça c'est l'autre partie.
Et Gary?
Le Gary, ça c'est mon père qui nous a tous donné des prénoms de personnages de films de cowboy. Mon grand frère s'appelle Wayne à cause de John Wayne.
John, j'allais le dire.
Voilà. Moi, c'est Gary à cause de Gary Cooper.
Ah, ben oui.
Voilà. Et mon petit frère, il y a un Lee dans son prénom à cause du général Lee. Donc,
oh non, c'est pas vrai.
Ah oui, c'est assez.
Le chien, il fait dans le coup.
Ah oh, oui, on est très. Oui, on est très. On montait à cheval, puis mon père,
vous
j'ai vu mon père avec
le
chapeau, toute mon enfance et les bottes.
Alors, je voudrais préciser que la chanson que vous venez d'entendre est signée Frédéric Garicomo. Je disparaîtrai. Je n'ai pas choisi cette chanson-là par hasard, parce que bon, aujourd'hui, c'est peut-être moins le chanteur et le poète, quoique. Je vais recevoir, c'est vraiment le romancier, parce que vous avez, Frédéric, deux livres que vous avez écrits, deux romans.
Deux romans,
et ça, c'est en dehors de vos recueils de poésie et de vos albums. Il y en a quatre, hein, albums, si
quatre
je ne m'abuse,
albums,
c'est ça.
Quatre albums et une quinzaine de
recueils. Alors là, nous, on va vraiment parler des deux romans, parce que je suis contente, ils sont tous les deux disponibles à la Grande Bibliothèque.
Et ils sont liés, en plus.
Oui.
Les personnages.
Oui, c'est ça, exactement.
Ça s'imbrique.
Ben oui, parce que donc.
C'est comme une suite.
Bon, alors, on fait la connaissance d'Antoine Bourque,
voilà.
Qui n'est pas vous du tout.
C'est une version.
Pourquoi elle nous a fait un clin d'œil, la dame que vous avez amenée avec vous de la maison d'édition?
Elle me connaît peut-être un peu trop. Souvent, les romanciers ont écrit un alter ego qui est une version améliorée de soi-même.
Moi, j'ai
décidé de faire le contraire.
Alors, Vertige, il a décidé de faire le contraire, oui. Excusez-moi,
tout d'un coup, je viens
de la réagir. Alors, Vertige d'abord, oui. Parlons-en. Ça, c'est sorti en 2013.
Effectivement, 2013, oui.
Mais j'ai lu quelque part, vous avez mis 20 ans à l'écrire.
C'est ça, ben, un peu plus parce que j'ai...
Un peu plus?
Je l'ai commencé en 1991 ou 12. Bon, oui, disons 20 ans, oui, à peu près, oui.
Pourquoi?
Parce que, attendez, la première fois, j'ai perdu le manuscrit dans un taxi, donc j'ai dû recommencer.
Non.
Oui. La deuxième fois, j'ai perdu le manuscrit dans un train en voyage.
Non.
Et en Provence, il me semble, j'étais à l'époque où j'habitais à Avignon, je l'ai perdu. Et puis la troisième fois... on m'a volé mon ordinateur portable au cinéma pendant qu'il était dans le siège juste à côté de moi.
Et vous n'aviez pas fait de...
Je suis pas fort sur les... Ma femme me dit toujours, ben fais donc des backups, comme on dit. Non, c'est j'en fais... En ce moment, c'est vraiment drôle parce que je suis un peu dans une situation...
Similaire?
Similaire parce que... J'ai pas beaucoup dormi dans la nuit parce qu'aujourd'hui, j'avais une rencontre avec mes collaborateurs en studio parce que je commence à travailler sur mon prochain album.
D'accord.
Et je voulais retrouver comme un de mes cahiers d'écriture de chansons les plus récents parce que j'écris tout à la main dans des cahiers.
Oui. Gauche.
Et je trouvais. Oui, la main gauche, oui.
Parce que je viens de voir, parce que j'ai.
et je retrouvais pas le cahier. Je ne retrouvais pas nulle part dans la maison. Donc, je suis je vais peut-être devoir réécrire toutes ces chansons ou essayer de m'en rappeler, en tout cas.
Oh non, non,
si
non,
je
non, non.
Non, mais ça, c'est,
à la recherche
ça, c'est
des cahiers perdus.
De ah, ah oui, je suis constamment...
Mais ça ne vous tente pas d'écrire là-dessus? Parce que ce serait bien de s'imaginer
les,
dans
les
quel...
cahiers perdus.
Ben, dans quel placard ou dans quel fleuve ils ont été jetés, je ne sais pas, ou dans quel...
Moi, je crois que j'ai trop été influencé par le bouddhisme.
Ah!
Ce truc de non-attachement,
karma,
là.
Ah,
non, mais
oui.
surtout le truc de non-attachement.
Ah.
Vous savez, les moines qui font des mandalas
oui,
avec le,
oui.
le sable colorié,
c'est votre
puis après
mandala.
Ça souffle. Ben, j'ai l'impression que ah. chaque chose que je fais, je m'arrange pour le perdre et devoir le recommencer et le refaire. Donc, j'essaie de me convaincre que les nouvelles versions sont meilleures que les anciennes.
Est-ce que c'est le
mais
cas?
Mais on n'aura jamais la preuve.
Est-ce que c'est le cas?
Je ne sais pas.
Alors, vertige.
J'essaie, pour survivre oui. à ça, il faut que je me convainque que oui.
Alors, là, il me semble entendre déjà les auditeurs me dire « Oui, mais ça parle de quoi, vertige?
» Effectivement. De,
hein?
de
c'est une bonne question.
Toutes sortes de choses. Ça, c'est, vertige, c'est un roman... c'est un peu un roman vortex, quelque part. Dans le sens que c'est on commence par... un événement, il y a un événement, c'est-à-dire une explosion dans une gare
oui.
à Paris. Et puis, à partir de ça, c'est l'espèce de conflagration, quoi. C'est comment cet événement affecte... puis l'explosion, c'est une bombe, c'est un attentat terroriste, mm-hmm. mais c'est pas mm-hmm. du tout un polar, le livre.
Non.
Mais c'est comment cet événement affecte déjà, les deux personnes qu'on rencontre au début dans le roman, donc Victor, et, oui. Qui est un peintre relativement âgé, et Hope, qui est une jeune femme de 19 ans, et comment ça les affecte, puis comment ça affecte leur trajectoire dans la vie à partir de ce moment-là. Et donc, on les suit, eux, et plein d'autres personnages qui se grèvent, qui sont liés mm-hmm. à ça, même, bon, la personne qui a fabriqué la bombe, même...
Ah oui, oui, d'accord.
Donc, on suit okay. plein... tous ces personnages-là. Et donc, il n'y a pas vraiment de personnages principaux.
Non, non, je comprends.
On peut dire que Hope et le personnage d'Antoine, c'est, disons, les deux pôles mm-hmm. du roman qu'on suit, puis on ne sait pas s'ils vont se rencontrer ou non. Mais il y a 8 personnages quand même qu'on suit tout au long du roman pendant des chapitres extrêmement courts. Donc, ça bouge quand même relativement rapidement. Puis on passe d'un... Ça peut être un peu déboussolant au début, mais après, je crois
d'accord.
qu'on s'y habitue.
Mmh.
On passe d'un monde, d'un personnage à l'autre et d'un monde à l'autre assez rapidement. Et je crois que c'est un peu le... Pour moi, c'est le roman qui va un peu façonner le reste de mon travail comme romancier. Comme déjà, Evelyne, 12 chansons pour Evelyne, le
oui.
deuxième.
Oui.
Suit...
Où on retrouve un peu les mêmes thèmes.
Ben, ça suit ben, Antoine Bourque.
C'est ça.
Donc,
c'est ça.
Là, je suis en train de travailler sur un troisième roman qui est aussi issu de...
Des deux premiers, avec Antoine?
Non, là, c'est pas avec Antoine. Ah. Là, c'est avec Olivier, qui est le personnage, le jeune garçon dont Hope... lequel Hope a une aventure quand elle arrive à Montréal. Donc, on suit Olivier.
OK, d'accord.
Dans le nouveau roman. Donc, j'ai l'impression que...
Tout ça
donc,
est imbriqué.
Ça me permet de faire peut-être autre
oui.
chose, mais c'est
oui.
un peu la matrice oui. de plein de romans à venir. Disons.
Tout ça parce que vous avez du mal à vous séparer de vos personnages?
J'avais pas l'impression que j'aurais du mal à me séparer de mes personnages, mais j'ai l'impression que j'ai frôlé les vies... des vies qui peuvent vraiment être intéressantes. Parce que c'est un roman qui se passe aussi... tout le monde tous les personnages dans Vertige sont à un moment dans leur vie où quelque chose doit arriver. C'est-à-dire qu'il doit avoir un changement, il doit avoir ouais. un... puis dans des âges différents de la vie, hein,
c'est pas que des
ados
non,
ou des gens plus vieux. Mais c'est... Tout le monde est dans et sur le point
de ouais.
d'accoucher d'un autre eux-mêmes, disons.
Et alors vous, vous avez accouché là de 12 chansons pour Evelyne.
Voilà.
Au départ, c'est une histoire d'amour qui s'arrête brutalement, abruptement, c'est-à-dire qu'elle disparaît.
C'est ça, la fille Evelyne.
Au début, donc Evelyne, après que vous soyez revenu du fond d'un bois où vous avez composé 12 chansons. Que vous êtes,
le personnage,
voilà. Oui.
Moi.
Bah oui. Oui, non, non, quand je dis vous, effectivement.
Oui.
Le narrateur.
Le narrateur.
Pardon.
C'est un personnage.
Oubliez ça.
De fiction.
De fiction.
Complètement.
Oui, oui, absolument, je
Sinon,
n'en doute
pas.
Sinon,
ma femme me tue.
Oui, parce qu'alors, en plus, moi, je vous ai vu comme un espèce de James Bond poète. Hein. C'est-à-dire que c'est incroyable dans ce livre-là. Ce type-là, pour vous résumer ça en 10 secondes, donc, il se fait planter par sa nana qui disparaît, mais alors, on ne sait pas où. Et lui-même disparaîtra, du coup, pour, comment dirais-je, pour s'oublier dans la disparition de cette femme qu'il aime. Et alors là, partout où il se trouve sur la planète, parce qu'il voyage, hein, dès qu'il lève la tête, oh, il tombe sur une super nana avec ouais. qui il va passer une semaine ou deux. Il adore faire l'amour, le personnage. Bon, madame n'écoute pas tout de suite. Non,
non, non madame non, est non, au... Bon. Elle est au travail, elle fait des livres.
Ah bon, d'accord, ok. Alors, non, mais c'est ça. Alors, c'est pour ça que je dis que vous êtes un espèce de James Bond de la poésie. Ouais. Et parlant de poésie, hein, là... Oui, ok, c'est un roman, c'est de la prose, mais il y a tellement de moments poétiques dans ce livre-là, dans votre prose.
Oui, j'essaie de les intégrer.
C'est magnifique.
Je voulais que ça soit à la fois ancré et flottant.
Avec des chapitres courts, justement.
Ouais.
Hein, et c'est comme si chaque chapitre court, à ce moment-là, ressemblait à un poème. Par exemple, ici, lorsque vous dites que la nuit est immense au Mexique, elle est si étoilée, longue et silencieuse que mon esprit tourbillonne et mes yeux se ferment, orchestrant des souvenirs d'éclats lumineux. C'est-à-dire, c'est une phrase de poète, ça, mesdames et messieurs. C'est pas une phrase de...
Des formations professionnelles, peut-être un peu.
C'est
quand même, c'est quand même le... Bon. C'est ce que j'ai travaillé le plus dans ma vie, quoi. C'est quand même la poésie, les textes de chansons. Puis même les romanciers qui m'ont beaucoup marqué
ont tendance à
avoir des images
oui.
fortes.
Lesquelles
Marguerite Duras, par exemple.
Oui, donc, oh, bah, cette phrase-là qui revient tout le temps, là, d'ailleurs, ça aurait pu s'appeler comme ça, sur Hiroshima.
Oui, effectivement, tu n'as rien vu, Harry. J'ai tout vu, tout, oui, effectivement. Oui,
hein, ça aurait pu être le titre.
Mon amour, effectivement.
Vous auriez pu lui piquer.
C'est vrai.
Et vous ne l'avez
mais
pas
fait. Ouais. J'ai l'impression que j'essaye de trouver l'équilibre entre mes deux marguerites, entre mes deux fleurs, Yourcenar et Duras.
Et Duras.
Donc, Yourcenar qui est beaucoup plus dans le lyrisme, beaucoup plus dans la précision, et Duras qui est beaucoup plus dans l'ellipse.
Frédéric Garicomo, Vertige et 12 chansons pour Evelyne, disponibles via l'USQLA et Caleb à la Grande Bibliothèque. Merci tellement d'être venu.
Merci à vous, merci bien.
Salut.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, Frédéric Garicomo est reparti et il nous a laissé avec ses deux livres, Un Vertige et 12 chansons pour Evelyne, disponibles via le SQLA à la Grande Bibliothèque ou encore par le CAEB. Et comme d'habitude, à cette heure-ci de l'émission, je vais vous lire un ou deux extraits de J'ai choisi 12 chansons pour Evelyne, notamment ici en page 23. Pour vous situer, nous sommes au moment où sa blonde l'a laissé tomber, mais alors elle a carrément disparu des radars. Il n'a aucune espèce d'idée de l'endroit où elle se trouve. Il en est profondément malheureux et surtout il est profondément paumé, perdu. Alors il saute sur sa bicyclette, il fait le tour de Montréal je ne sais pas combien de fois et finalement il se retrouve à l'aéroport avec sa carte de crédit dans la main et il décide de s'acheter un voyage. Le milieu de la nuit. Je n'ai toujours pas parlé à l'anglais. Je n'ai parlé à personne depuis que je suis rentrée de chez Camille. Je vais probablement aller me cacher, comme d'habitude. Je supporte très bien la critique, à condition qu'elle vienne de gens pour lesquels je n'ai aucun respect. Je ne veux pas retourner dans la forêt, mais je ne peux pas rester à Montréal. Je vais essayer de me trouver un billet pour partir demain. Je ne sais pas trop où j'ai envie d'aller. C'est le hasard qui va décider. J'irai où me mènera le premier billet que je trouverai en dessous de 1 200 $. Ça fait 100 $ la chanson. C'est parfait. Un billet ouvert pour un an en plus. Je trouve l'iPad, je vais sur Priceline et voilà. Tokyo, avec Japan Airlines. Départ dans 2 jours. J'entre le numéro de ma carte de crédit et j'achète. Il ne me reste plus qu'à faire mes valises. Avec M. Frédéric Garicomo, la poésie n'est jamais bien loin. Lui qui a d'ailleurs créé plusieurs, produit plusieurs et écrit plusieurs livres, plusieurs recueils de poésie, dont certains d'ailleurs ont été primés. Et si on se rend en page 127, c'est un tout petit chapitre très court. Et il écrit ceci. Rêve. Je suis dans un jardin espagnol, baigné de lumière. Un oiseau outre-noir fait des cercles concentriques dans le ciel céruléen. Le goût qui reste sur ma langue me propulse vers un souvenir rugueux. Je m'engueule avec Célestine. Je veux que nous passions des tests de sang. Elle me lance des injures, me crie que jamais personne ne lui fait confiance. Ses larmes sont celles d'un enfant errant dans la plus dense forêt du monde, ayant abandonné tout espoir de trouver un seul des 1000 sentiers qui pourraient l'amener jusqu'à la maison. 2 désirs me tenaillent. Ma tête veut être son sentier et mon cœur veut être sa demeure. Et j'ai une autre invitée en studio aujourd'hui, puisque ce qui est formidable, c'est que c'est quelqu'un qui est à la fois une artiste, mais aussi une bénévole ici chez nous, chez Vues et Voix, et qui enregistre pour vous des livres audio depuis combien de temps, à peu près?
Ça fait plus de 5 ans, là.
Ça fait plus de 5 ans.
Oui.
C'est la voix de Marie-Josée Longchamp que vous entendez. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour, bonjour.
Marie-Josée, vous avez un grand ami dans la vie. Un grand, grand, grand ami. Et ça fait longtemps que vous êtes amie. C'est Monsieur Lévesque, hein. c'est Raymond Lévesque.
Raymond Lévesque, oui. Raymond Lévesque, je le connais depuis l'âge de 11 ans.
Oui.
Et je vais avoir 70 ans. Alors, ça commence à faire un bon bout, hein.
Et lui, quel âge il a?
Il s'en rappelle d'ailleurs. Raymond, il a eu 88 ans au mois de le 7 octobre.
Oui.
Ouais. Oui. Alors, il n'est pas jeune, hein?
Mais non.
Mais il n'entend pas, ça fait longtemps, malheureusement.
Oui, ça fait longtemps maintenant. Mais il écrit, par exemple.
Il écrit toujours.
Il écrit,
il suit les nouvelles, l'actualité.
Oui, hein?
Ensuite, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on peut regarder la télé avec les sous-titres. Là.
Oui, c'est ça.
Et puis, il est très, très actif intellectuellement.
Oui, oui, oui.
Il oublie des choses à court terme un peu.
Mais
au moins, il s'en rend parfaitement compte.
Alors vous, Marie-Josée Longchamp, ça fait des années et des années déjà que vous rendez hommage à ce grand ami,
oui,
qui est Raymond Lévesque. Et vous avez notamment créé un spectacle qui tourne. Hein, depuis quoi?
Ça fait 6 ans. Oui, mais au départ, j'avais participé à une soirée pour La Butte à Mathieu, qui est une des premières boîtes à chansons qui a existé.
Mais oui.
Et comme j'avais joué à La Butte une pièce de théâtre de Raymond et chanté, je ne me souvenais pas que j'avais chanté. C'est écrit dans un livre que c'est moi qui chantais. Puis j'ai dit, mon Dieu, je ne m'en rappelais pas. Alors, cette soirée-là, j'ai comme rafistolé d'un texte pour en faire un monologue d'une pièce qui s'appelle encore, le livre existe, Bigaouette. C'est sûrement la grande bibliothèque, d'ailleurs.
Ouais.
Et puis là, j'ai eu un beau succès. La réponse du public était d'abord... pour moi, étonnante. Puis moi, je les ai étonnés aussi. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Moi non plus, parce que j'ai une qualité que, à force de travailler, de mon travail, à plusieurs reprises, j'ai dû faire des textes pour du monde. Et c'est pas connu, ça. Et je me suis aperçue que j'avais ce talent-là de faire un monologue. Et je me débrouille assez bien.
Assez bien.
Oui. Bon. Alors, mais là, j'y suis allée comme ça, à une semaine d'avis. Et par la suite, j'étais tellement heureuse que je suis allée voir Raymond Lévesque avec un producteur. À l'époque, Raymond habitait à Sainte-Foy. J'avais pris des semaines et des semaines à vouloir monter un récital de poésie. Et j'avais 4-5 poètes en tête. Et au bout d'un moment, je me suis chronométrée. Et je me suis aperçue que j'avais 50 minutes de Raymond Lévesque qui me passionnait.
Ah oui.
Ça me parlait. Parce que l'univers de Raymond Lévesque, à 80 %, c'est mon univers à moi. On a été élevés dans le même bout. Je ne suis pas une bourgeoise. J'aime pas l'esprit bourgeois. J'ai beaucoup, beaucoup de choses qui se marient au cœur, à l'âme de Raymond Lévesque. Alors, je n'ai pas son talent de compositeur, mais je veux dire...
Mais vous avez un talent d'interprète évident. Et d'ailleurs, je voudrais tout de suite préciser pour les gens qui nous écoutent qu'ils vont pouvoir, là, dans les semaines à venir, pouvoir aller vous écouter, que ce soit d'ailleurs sur la rive sud ou de ce côté-ci du fleuve, parce que vous allez vous produire, rappelez-moi, là,
d'abord,
au mois d'avril.
Le mercredi 12 avril, je suis dans un bistrot qui s'appelle... C'est plus un restaurant qu'un bistrot, là, mais ça s'appelle le Paris. Si, comme à Paris, la ville de Paris. Mm-hmm. Paris, trait d'union Si, bistrot, au Mont-Saint-Hilaire.
OK.
C'est un souper spectacle, donc c'est pas comme avec une scène, parce que c'est juste une plateforme. Ouais. Mais par contre, moi, comme interprète, ça m'oblige à être dans la vérité plus totale parce que je n'ai aucun filet pour me protéger.
Non.
Je ne suis pas flattée par aucun éclairage, un bon système de son, mais les gens sont tellement proches de nous que c'est comme dans un grand salon. Alors, c'est un danger pour moi en même temps que le risque en vaut la peine parce que je crée une sorte d'intimité avec
les gens.
Comme je vous dis... on ne peut rien cacher dans un contexte
comme ça.
Mais
non, c'est sûr.
Ensuite, le 18 avril, un mardi, je suis au Théâtre Outremont, au Petit Outremont, qui est une salle qui est aussi un bar, quelque part, que les gens apprécient beaucoup. Et donc, voilà, ça, mon spectacle, ça, il a changé de nom dernièrement. Ça s'appelle maintenant Marie-Josée Longchamp chante et récite Raymond Lévesque. Parce qu'au départ, je ne chantais pas du tout.
Eh bien,
deux heures de texte,
monologue,
de poème, dans mon cauchemar de la veille, que je dors pas, je perds la voix, la moitié de la salle partait à l'entracte.
Eh bien, oh non!
Dans mon cauchemar.
Ah, dans votre cauchemar! D'accord.
Mais là, c'est jamais arrivé.
Oui, mais là, écoutez, ce serait quand même dommage qu'on se soit passé de vos talents d'interprète-chanteuse aussi, comme on va l'écouter maintenant, parce que vous avez sorti un album avec ces chansons-là, que vous reprenez notamment dans votre spectacle.
Oui. L'album s'appelle « Les jours d'amour » parce que c'est la chanson phare de l'album, qui est la dernière composition l'année passée, en 2016, de Raymond Lévesque pour « La paix dans le monde ».
Oui, mais nous, on en a choisi une qui est un petit peu plus courte parce qu'on voulait avoir le temps de pouvoir discuter avec vous. Alors, on écoute, c'est le parc La Fontaine.
Ah oui.
Au parc La Fontaine, tout près de l'étang, un soir, je t'ai dit, je t'aime. Au parc La Fontaine, c'était le printemps. La nature disait de même. Les petits canards, je me souviens bien, ce soir-là veillaient encore. Les petits canards, je me souviens bien, m'écoutaient jusqu'à l'aurore. Mais toi, qui ne m'écoutais pas, mais toi qui ne m'écoutais pas. Au parc La Fontaine, dans un doux poème, un soir je te dis, je t'aime. Je tenais ta main, ça servait à rien, car toi, tu étais très loin. La vie est ainsi. Le ciel bleu n'est jamais pour deux. La vie est ainsi. Dans le bonheur, il y a du malheur. Au parc La Fontaine, tout près de l'étang, un soir je t'ai dit je t'aime. Au parc La Fontaine, c'était le printemps, la nature disait de même. Mais depuis ce temps a passé le temps et le parc n'est plus le même. Toi tu es parti, les feuilles ont jauni, il n'y a plus que moi qui t'aime.
Alors, c'est Marie-Josée Longchamp qu'on vient d'entendre, une chanson de Raymond Lévesque, Le Parc La Fontaine, que vous interprétez donc, Marie-Josée, dans le cadre de ce spectacle que vous tournez depuis maintenant 6 ans. Je oui. voudrais maintenant oui. qu'on parle, si vous le voulez bien, d'un livre que vous nous avez amené.
Bien, écoutez, j'ai apporté un livre d'une auteure qui s'appelle Sylvie Gobeil,
oui.
qui a quand même écrit autre chose, mais moi... Je connaissais pas. Et moi, j'adore les romans historiques.
D'accord.
Je suis une passionnée des romans historiques.
Et donc, vous l'avez lu ici bénévolement?
Je
pour
l'ai
les...
lu oui. moi-même. De D'accord. Tendre... Le titre, c'est « De tendres aspirations ». Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que j'apprends des tas de choses. C'est... Ça se passe dans le bas du fleuve, à Lillet, à Saint-Thomas, dans ce bout-là aussi, de Montmagny. Saint-Thomas
oui.
de Montmagny.
Oui.
Et les héros, sont... c'est une histoire vraie, de, entre autres, de Emma Gaudreau, qui a été la première femme dentiste.
Ah oui, oui,
à Québec.
Oui.
Il y a même une rue où elle a habité à la fin de sa vie quand son mari est décédé, où il y a une plaque. La rue, je l'ai marquée ici, évidemment, je ne la trouverai pas. Mais à Québec, ils ont gardé beaucoup, beaucoup d'informations à son sujet. Elle vendit sa maison de la rue Saint-Jean au marchand Gaspard Huot pour s'installer, voilà, au 180 rue Aberdeen.
En
il y a une plaque et ça. Et moi, j'aime ça quand c'est vrai.
Oui.
Alors, ça commence au 19e siècle, ensuite on tourne au 20e siècle.
Oui.
Puis elle écrit très bien, Sylvie Gobeil, dans les détails de la nourriture, les vêtements, tous les mm-hmm. détails qui font la saveur d'un livre. Puis en plus, pour moi, qui adore les belles histoires d'amour, c'est une vraie histoire d'amour.
Bon.
Parce que lui, le docteur, en fait, ils disent Henri Edmond Casgrain, mais elle l'appelait Edmond. Edmond Casgrain, lui, il venait du manoir de Lillet. Lui aussi, il a été un des premiers, si ce n'est pas le premier dentiste, parce qu'à l'époque, avant ça, c'était comme des arracheurs de dents. Là.
Oui, c'est ça,
elle
exactement.
Elle est allée étudier ouais. aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est, on apprend des choses, mais en même temps, je suis nourrie de certaines émotions normales.
Mais oui, c'est
hey,
sûr.
Il faut que je vous confie quelque chose.
Mais assez rapidement, parce que
l'heure
tourne, Marie-Josée.
J'ai pleuré, je ne pouvais plus lire à
ah,
la
oui.
fin. C'est
okay.
la première fois que ça m'arrive.
C'est vrai.
J'étais, je ne pouvais plus.
Mais dans la cabine, là, quand
dans
vous
la cabine, je n'étais plus capable parce que oh. c'est trop... Et c'est une histoire d'amour extraordinaire.
Ah, alors, rappelez-nous le titre pour que
alors,
les gens
okay.
aillent se procurer
okay.
ça.
C'est « De tendres aspirations ». L'auteur est Sylvie Gobeil. Ce n'est pas une histoire juste pour les femmes qui aiment comme moi les histoires d'amour. C'est, tout, c'est l'histoire, point.
D'accord.
L'histoire, point.
Eh bien, merci beaucoup. Je trouve ça très généreux d'être venu avec un livre. Vous auriez pu ne parler que de vous, et non, vous avez décidé de parler de okay. Mme Gobeil. Et moi, je voudrais qu'on termine cette entrevue en reparlant de Raymond Lévesque, parce que, évidemment, sachant que vous alliez être là, je suis allée voir quels étaient les livres disponibles de Raymond Lévesque à la Grande Bibliothèque, en audio adapté pour nos amis non-voyants.
Oui, est-ce qu'il y en a plusieurs?
Il y en a beaucoup.
Oui.
Alors, regardez, je peux même vous les citer. Il y a « À Kamouraska, un tyran se raconte... » Non, pardon, excusez-moi. « L'Amérique est un mensonge », dont je vais vous reparler.
Pièce majeure.
Pièce majeure. Il y a « D'ailleurs et d'ici ».
Ça, c'est son ses mémoires. C'est du bonbon
bon,
à lire.
Voilà.
J'ai jamais été en rire qu'en lisant ça.
Il y a « Ketchup » ou « Comment refaire le monde ».
Oui.
Il y a « Lettres à Ephrem », propos
oh, ça,
humoristiques.
C'est drôle. Bon. Il y a à peu près 70 lettres à Ephrem.
D'accord.
C'est drôle à mourir.
« Quand les hommes vivront d'amour », bien sûr, qui est un recueil de poésie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, c'est ça, je voudrais jeter un petit coup d'œil.
Vous devez avoir « Le malheur à pas des bons yeux ».
Malheureusement,
non,
je ne le
ça,
vois pas dans
le lire,
non, je le vois pas dans la liste, mais j'ai entre les mains... Voilà, je vous fais écouter les pages. J'ai entre les mains, alors avec cette photo admirable d'ailleurs au dos du livre que je trouve encore plus belle que celle de face, où on voit Monsieur Raymond Lévesque qui est au bord d'un, qui est sur un quai, donc au bord d'un bassin avec des bateaux. Alors il a ses cannes dans les deux mains, mais dans une des mains également, il traîne une petite map monde.
Ouais, ouais.
Et je trouve que cette photo de dos de Raymond Lévesque traînant sa petite map monde, elle est vraiment ouais. magnifique. Alors l'Amérique est en mensonge, laissez-moi vous prendre quelques secondes pour vous lire la quatrième de couverture à travers un témoignage autobiographique inédit plusieurs chansons et de nombreux poèmes, dont plusieurs nouveautés et inédits. Cet ouvrage raconte la vie et les combats de Raymond Lévesque, pionnier de la chanson québécoise. Malgré les années, l'auteur de Beaux os les culottes et de Quand les hommes vivront d'amour n'a rien perdu de sa verve ni de sa touchante compassion devant le malheur et la misère. Il témoigne donc ici avec force de son parcours d'homme, d'artiste et de militant. Et comme il l'a fait toute sa vie, il ne manque pas de dénoncer les injustices et de nous émouvoir. Voilà. Véritable testament poético-politique, les propos réunis dans ce livre par Sylvain Rivière constituent un précieux legs de la part d'un de nos plus grands auteurs.
Exact.
Un auteur et un de vos amis, Marie-Josée Longchamp, dont vous continuez de chanter les chansons, dire la poésie.
Oui, je fais de la poésie sur l'album Les Jours d'amour. J'ai 5 poèmes d'ailleurs. Puis il y en a un que vous avez dans ce livre-là aussi qui dit... Où est donc l'intelligence des hommes dans ce chaos du monde? Et à 88 ans, il n'a pas changé là-dessus.
Ah oui, non, écoutez, ça fait partie de ces grands esprits dont nous avons besoin pour chialer un bon coup et pour chialer intelligemment.
Ça nous oblige à réfléchir.
Mais absolument.
Parce qu'en fait, il est très actuel. C'est ça qui frappe les jeunes qui viennent me voir, qui viennent me voir en spectacle. Il est pas, c'est vraiment pas Raymond Lévesque juste quand les hommes vivront d'amour.
Oui. Hein. Non, ça c'est certain. Ouais. Marie-Josée Longchamp, je suis obligée de vous dire au revoir parce que l'émission continue.
On se reprendra une autre fois.
Exactement, mais ça a été très agréable de vous rencontrer. Nous, on se connaissait déjà, mais de vous amener ici en studio pour que les auditeurs fassent votre connaissance.
Comme je vous dis, si quelqu'un ne voit pas, ce n'est pas nécessaire quand je fais le spectacle de Raymond.
Ah non, c'est ça, oui.
C'est ça. Autrement aussi, c'est bien organisé, le son est excellent.
Parfait.
Et puis n'oubliez pas, 12 avril, puis au Mont-Saint-Hilaire, par ici.
Et 18 avril
Le 18 avril au Théâtre Outremont.
Alors, à vos téléphones pour réserver vos places. Merci beaucoup, Marie-Josée.
Merci aussi.
Alors, des nouvelles et des livres, je vous amène dans l'univers déjanté de San Antonio parce qu'il y a un dictionnaire amoureux qui concentre son esprit en 700 pages, écrivait Jean Dion dans le Devoir, à qui il arrive, Jean Dion, de faire des chroniques littéraires, voilà. Alors, l'œuvre de Frédéric Dard, bien sûr, écrit Monsieur Dion, qui est immense, fut-elle de la littérature de gare pour passagers en deuxième classe. Il fallait, par exemple, on nous dit ici que Dard était un désespéré. Il a déjà évoqué son drame personnel, sa grande inaptitude à vivre dans un monde terriblement mal fait. San Antonio, figurez-vous, lui permettait d'échapper à ce monde et de le refaire, de tout dire, littéralement tout, au nom d'une liberté qu'on tente sans cesse de restreindre, parce que l'humanité est comme ça, conne à hurler. Il en résulte, dit Éric Bouillet, qui a participé à ce grand dictionnaire, une œuvre bicéphale écartelée entre la traque de l'intelligence et celle de la connerie humaine, où l'on frémit en comprenant vers où la balance penche. Alors, San Antonio en 3 mots. D'abord, la mort. Et San Antonio, donc Frédéric Dard, qui disait « J'ai toujours eu le sentiment de la précarité. Très jeune, j'avais l'impression que j'allais mourir. C'est-à-dire que le phénomène de mortalité était en moi, enfant déjà. L'horreur que m'inspire le crépuscule de la vie est désormais mon état d'esprit naturel. » Calembour, c'est plus fort que moi. Faut que je jeu de motte, comme J-E-U-X, trait d'union, D-E, trait d'union, M-O-T-E. J'ai consulté, notez bien, disait Frédéric Dard. Les toubibs m'ont dit que j'avais une malformation du clapet supérieur gauche. Paraît qu'avec une intervention consistant à pratiquer l'ablation du cervelet, ça s'arrange. J'hésite. Les blocs opératoires, on sait comment on y entre, on ne sait pas comment on en sort. Et puis, entre nous, j'adore calembourrer. Ma matière grise me grise. Et puis, les cons. Tiens, il existe les cons, les moins cons, les pas trop cons et les autres, c'est-à-dire les très cons, disait Frédéric Dard. Il n'y aurait donc rien de surprenant si certains lecteurs se reconnaissaient dans ces pages. Nous n'avons malheureusement pas énormément de livres via le SQLA, mais nous en avons quand même quelques-uns. Ne ratez pas Céréal Killer. Celui-ci, je l'ai lu, Céréal Killer. Il y a aussi Le mari de Léon. Beaucoup. Et puis La nurse anglaise. 3 livres de Sana, de San Antonio, disponibles via le SQLA à la Grande Bibliothèque ou via le CAEB. « Les amoureux de littérature adorent cet endroit à Montréal, la librairie du Square, longtemps tenue par Françoise. Eh bien, Françoise a passé le flambeau et c'est maintenant Jonathan Cacro-Vartabedian qui s'en occupe. Ils sont deux à s'en occuper d'ailleurs. Et je reçois Jonathan la semaine prochaine qui va nous dire à quel point il a gardé intact ce petit bijou de la littérature, ce véritable musée du livre qu'est la librairie du Square, juste en face du Carré Saint-Louis à Montréal. Alors ça, c'est pour la semaine prochaine. Jonathan Cacro-Vartabedian. Alors, les titres en rafale maintenant. Câlin, cœur à cœur. Ça, c'est le livre que je qualifie d'utile. Saviez-vous que le câlin a le pouvoir de briser les carapaces de protection mises en place, consciemment ou inconsciemment, à la suite d'expériences douloureuses et souffrantes? Saviez-vous qu'un câlin sème l'espoir et la joie et qu'il a même le pouvoir de renforcer le système immunitaire? Eh bien, inspiré de son propre vécu et parsemé d'extraits de son One Woman Show, lui-même basé sur son histoire personnelle, le livre nous fait voyager de la petite enfance d'Amélie jusqu'à son entrée dans le monde de la câlinothérapie. Mais qui est cette Amélie? Ce n'est pas l'Amélie du film. Elle s'appelle Amélie Grenier et elle est actrice de métier, cette femme française. Et donc, eh bien, elle n'a pas complètement quitté le monde des planches ou des caméras, mais elle s'est vraiment, redirigée vers la câlinothérapie et nous offre ce livre « Câlin, cœur à cœur ». Parcours d'une actrice vers la câlinothérapie pour redonner au toucher ses lettres de noblesse. Le bouquin qui se lit bien assez facilement, ça s'appelle « Le cercle » de Dave Eggers, E-G-G-E-R-S. Quand Maë Holland est embauchée par Le Cercle, elle n'en revient tout simplement pas. Installée sur un campus californien, ce fournisseur d'accès Internet relie les mails personnels, les réseaux sociaux, les achats des consommateurs et les transactions bancaires à un système d'exploitation universel à l'origine d'une nouvelle ère hyper numérique prônant la civilité et la transparence. Mais remarquez, jusque-là, on se demande si c'est bien de la fiction. Alors que la jeune femme parcourt, alors là, nous sommes bien dans le monde français de la littérature, elle parcourt les open space. Ça me fera toujours rire ou pleurer, je sais pas. Elle parcourt aussi les immenses cafétérias en verre et les dortoirs confortables pour ceux qui restent travailler le soir. La modernité des lieux et l'intense activité la ravissent. Alors découvrez ce qu'est le cercle. C'est facile, c'est sympa, ça se lit bien. Et voilà. Le livre de recettes du jour, c'est la cuisine de ma grand-mère italienne. Matteo Agostinelli et Matthew Foulidis, qui sont passionnés de recettes et d'assiettes depuis toujours. Ils sont jeunes, hein, ils ont 22 et 23 ans, ils étudient en administration. Ils disent « À l'adolescence, alors que la plupart des garçons préfèrent jouer au foot ou au hockey, nous, on aimait vraiment cuisiner. On allait chercher des recettes en ligne et on passait notre temps dans la cuisine. On adorait reproduire les recettes de nos chefs préférés pendant notre temps libre. Résultat, après cinq ans en cuisine, la cuisine de ma grand-mère italienne vient de sortir. Alors, il y a maintenant quelques mois et c'est maintenant disponible en audio. Matteo a fait les textes et Matthew les photos en cuisine et non en studio. Le livre compte 80 recettes. On a choisi les préférées, celles qui nous tenaient à cœur. La moitié provient de ma famille du Frioul et l'autre de la famille de Matteo du centre-sud de l'Italie. Pour les deux étudiants, la culture, ça se passe à la table. Et chez les Italiens, on est élevé dans la cuisine. Alors, la bio du jour, c'est « Entre la jeunesse et la sagesse », l'album de famille des sœurs. Bien sûr, on parle là des sœurs McGarrigle, Anna et Jane McGarrigle, qui lancent « Entre la jeunesse et la sagesse », la bio de la famille. Anna et Jane qui expliquent et racontent, qui se partagent les courtes mais savoureuses, tendres et transparentes histoires qui jalonnent ce parcours plein de détours entre l'amour et la jeunesse. Donc, l'album de famille, tout ce qui nous précède, nous, famille élargie en forme de public. Et si vous ne savez pas qui était Jane, eh bien, elle faisait partie du trio, mais même s'il n'y en avait que deux qui chantaient, eh bien, Jane n'était jamais très loin, notamment dans l'écriture de chansons. Un livre jeunesse maintenant avec Maestro. Ils sont serreurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes ou encore chiffonniers. Des enfants laissés pour compte dans un pays où les plus pauvres ne peuvent que survivre, survivre. Saturnino tente de le faire dans la rue. Et un jour, il rencontre un vieil homme qui s'appelle Saturnino et qui se dit chef d'orchestre. Alors, c'est ça. C'est vraiment un livre tout à fait sympathique pour les jeunes et les jeunes adultes aussi. Maestro. Et puis, je finirai par un livre dur. Non, tiens, je vais le garder pour la semaine prochaine. Pourquoi pas? Alors, je voudrais remercier vraiment beaucoup et du fond du cœur mes invités du jour, Jean-Daniel Aubin, Frédéric Garicomo et Marie-Josée Longchamp. Remercier aussi mes camarades qui travaillent fort pour que cette émission existe. Je pense à Martin Forgue et je pense aussi à Jean-Sébastien Laliberté qui me fait signe qu'il ne me reste plus que 20 secondes pour vous dire au revoir, pour vous témoigner de toute mon affection, pour vous souhaiter de bonnes lectures durant toute la semaine et pour vous dire que j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver la semaine prochaine, dès jeudi prochain à midi, mais en reprise quand vous voulez. Salut!